Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Catherine Testa.
Bonjour Julien.
Je suis content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel moi j'ai l'habitude, ça y est, de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons aborder des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur, comme l'importance des nouveaux récits, mais aussi la quête de bonheur dans nos vies. Catherine, avant que tu nous racontes tous tes projets en cours, je sais que tu es une personne très active, j'aimerais que tu nous dises comment tu te présentes. Imagine que nous nous rencontrons pour la première fois à une soirée ou je sais pas quoi et que tu doives décrire un peu qui tu es, ce que tu fais. Je te dis ça parce que je sais que tu as 10 000 casquettes. Tu es cofondatrice du site l'optimisme.com, tu es auteur, tu es conférencière, coach, chroniqueuse à la radio et j'en oublie plein. Mais concrètement, comment tu te présentes et si jamais tu devais garder qu'un seul métier, quel serait-il ?
je déteste cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que je la trouve beaucoup trop réductrice.
Ouais.
Je dirais que je suis avant tout quelqu'un de curieux, en fait. Curieux du monde à venir, donc évidemment ça te parle, j'imagine, et curieuse des gens, curieuse de la beauté aussi de l'humanité qu'on peut voir. Donc je pense que ce serait ça, et si j'avais un métier à garder, ça serait probablement le travail d'écriture, parce que quand on est dans l'écriture, tu sais, on est dans l'introspection, et à un moment donné, on pond quelque chose qu'on offre à l'autre et qui va l'accueillir en fonction de sa propre personnalité. Donc, j'aime bien effectivement cette casquette d'écriture que je trouve assez intéressante.
Tu dis que tu es curieuse, mais des gens curieux pourraient très bien être chercheurs, aventurières, exploratrices. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Toi, tu es quand même... entrepreneuse avec tout un tas d'activités que tu lances et avec cet axe fort quand même de la reconnexion au vivant, de la reconnexion au bonheur, tu organises toute ton énergie autour de l'optimisme. Quel est le fil rouge de toutes ces expériences quand même ?
Je pense que j'avais perdu mon optimisme un jour. Et du coup, je me suis dit en fait que l'optimisme était quelque chose qui se travaillait, qu'il fallait aller le chercher et qu'on pouvait le cultiver. Donc c'est pour ça que j'ai dans mon essence probablement avec cette curiosité, donc celle de la transmission, tu vois, mettre en avant, sublimer, en l'occurrence le vivant, sublimer les actions de ceux qui, voilà, qui agissent, sublimer la nature, parce que quand on sublime les choses, on a peut-être aussi un peu moins envie de les détruire, tu vois. Donc j'ai ce goût du beau et la beauté est partout.
Tu dis sublimer, tu dis relever le beau. C'est vrai que je pars du même constat et notamment après avoir vécu de nombreuses années dans des pays où chaque occasion est une fête, en rentrant en France, c'est vrai que moi aussi, je me suis rendu compte qu'on était un peu trop souvent en pilote automatique. Est-ce que c'est aussi un peu ce que tu sous-entends dans la perte de l'optimisme, dans l'idée de sublimer le quotidien ?
Ouais, complètement, en fait. Tu vois, Internet qui est censé nous ouvrir sur le monde, en fait, nous referme sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on éduque un algorithme à aller chercher ce qui nous intéresse. Du coup, plus tu es, alors je ne sais pas, curieux des actualités anxiogènes, plus Internet va te mettre en avant des actualités anxiogènes et plus tu es curieux, je ne sais pas, de tout ce qui se fait en matière d'éducation de demain ou d'environnement, plus Internet va te le mettre en avant. Et du coup, j'ai naturellement, les gens, par instinct un peu mammifère, instinct de survie, instinct voyeur, vont aller cliquer sur ce qui ne va pas et vont avoir une vision très biaisée peut-être aussi de la réalité et ne vont s'abreuver que d'actualités anxiogènes et qui vont eux-mêmes les freiner en fait à agir. Donc c'était pour ça que j'avais envie de mettre en avant ce qui allait aussi, parce qu'il y a plein de belles actions partout et il y a plein de beaux partout.
Toi, tu as appris le mot d'optimisme. Moi, j'utilise plutôt le mot du bonheur, de la joie. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre les deux, et si oui, laquelle ?
J'ai envie de te dire que la joie, pour moi, c'est mon baromètre. C'est-à-dire que si quelque chose ne me rend pas joyeux, c'est mon corps qui parle et qui me dit de ne pas y aller, en fait, tu vois. Je suis un peu guidée à cette joie. L'optimisme, c'est quelque chose d'un peu plus actif, tu vois. Par exemple, le sportif qui veut gagner un match, il se dit qu'il va pouvoir le gagner. L'entrepreneur qui veut lever des millions, quand bien même ça ne le mette pas en joie, il va lancer son entreprise, etc., etc. L'optimisme, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus neutre, en fait. Tu peux être optimiste et profondément pas joyeux en parallèle. Bah, moi, les deux vont de pair, mais est-ce que c'est pour tout le monde le cas ? Je ne suis pas bien sûre.
On entend pas mal de personnes qui réfutent un peu le terme d'optimisme, notamment dans le travail et de la quête de bonheur et des nouveaux jobs qui sont associés à cette recherche du sens au travail et qui peuvent parfois être importés d'une culture américaine et être difficilement transposables ici en France. Et souvent, du coup, on associe le terme à de la naïveté ou presque parfois un développement personnel un peu fade. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que toi, tu y es souvent confronté à ces jugements un peu hâtifs ?
Ah là là, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'en France, à un moment donné, on a vu il y a 4-5 ans émerger le terme de Chief Happiness Officer, donc les responsables du bonheur, un terme anglais en fait.
Ouais.
En l'occurrence, le mot anglais, le mot happy, tu vois, enfin, tu es happy d'aller boire un coup, tu es heureux d'aller boire une bière en Angleterre ou aux États-Unis. En France, assez peu de gens vont aller dire, bah, attends, moi, je suis heureux d'aller boire une bière. Du coup, il y a eu tout ce débat un peu philosophique qui est arrivé. Est-ce qu'on peut parler de bonheur en entreprise, etc., etc. Pour ma part, par exemple, je fais partie de ceux qui ont toujours eu du sens dans leur métier et du coup, qui se sont toujours levés en joie que d'aller travailler. Du coup, j'avais ce prérequis et ce fondement, mais on peut être heureux au boulot, en fait. C'était pas une opposition nette et franche. Ceci étant dit, cette mode du bonheur en entreprise, elle est arrivée un peu comme un sparadrap à, bah, tout d'un coup, il faut trouver du sens parce que les jeunes générations vont le demander. Il n'y a pas que les jeunes générations en plus. On est un peu venu édulcorer une réalité franchement un peu sinistre, et de fait, ça a probablement décrédibilisé le sujet, tu vois. C'était les mecs qui mettaient en place des baby-foot alors que bah, y avait des managements affreux, etc., etc. Aujourd'hui, on a peut-être dépassé ce débat, et souvent, je fais l'amalgame avec le développement durable. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans le développement durable et dans le digital, et soit on va réfléchir, est-ce qu'on parle de développement durable ou de RSE, voilà, est-ce qu'on parle de digital ou de numérique. S'arrêter au mot, c'est pas, voilà, le mot est important, mais s'arrêter au mot pour ne pas agir, c'est pas bien non plus, en l'occurrence. Aujourd'hui, il faut réfléchir à qu'est-ce que le travail, tu vois. Peut-être la définition bête et méchante de qu'est-ce que travailler aujourd'hui.
Dans ce que tu dis, j'entends aussi, comme tu le disais tout à l'heure, avec des outils comme Internet qui peuvent être utilisés de manière extraordinaire ou parfois, au contraire, complètement enfermante et en créant ces fameuses bulles dans lesquelles on se retrouve de plus en plus enfermé et cloîtré sur Internet. Tu dis que derrière, parfois, des bonnes intentions et des termes qui ont une valeur dans leur racine qui est louable, bah, y a aussi des détournements après tout.
Ah, mais partout, en fait, à un moment donné, je crois que certaines startups se sont dit que c'était le meilleur coût marketing que d'avoir un Chief Happiness Officer, tu vois. On venait interviewer le Chief Happiness Officer, c'était des deux pages dans un management capital ou des magazines comme cela. Jamais on aurait parlé de la startup autrement. Donc ça a été utilisé en levier en fait de communication pour startup. Ça a été utilisé par des grands groupes qui, à un moment donné, ben, je ne sais pas de quelle génération sont ceux qui vont écouter ce podcast, mais de ma génération, il suffisait les cabinets de conseil abreuvaient les écoles de pastis, tu sais, les BDE, on sponsorisait les fêtes étudiantes et on avait l'impression que c'était la panacée d'aller bosser dans tel cabinet de conseil. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut attirer de façon différente et donc on commence à parler de culture d'entreprise un peu différente pour attirer, en fait, pour ce qu'on appelle de la marque employeur, et les intentions ne sont pas bonnes. Tu vois, c'est pas pour que les gens soient heureux et du sens, c'est pour qu'on arrive à recruter des gens un peu moins chers et que ceux qui sont bien câblés viennent chez nous. Donc, c'est toute cette notion de perversion, et rien n'est binaire, en l'occurrence, parce que le bonheur en entreprise, j'ai envie de te dire assez grossièrement, c'est fonction des gens. C'est-à-dire que dans une même boîte, tu peux avoir des services qui s'éclatent et d'autres qui sont hyper stressés parce que tu auras un groupe de gens grincheux versus un groupe de gens peut-être un peu plus optimistes et plus, un peu plus enjoués. Et c'est très dépendant, tu vois, très dépendant de chacun.
On revient un peu sur les terrains qui, moi, m'intéressent. C'est vrai que j'ai cette sensibilité aux questions écologiques, environnementales, notamment. Et je sais que toi, tu as fait le début de ta carrière avec cet intérêt aussi de ce qu'on appelait à l'époque le développement durable. Et puis, très vite, tu en es venu à te lancer et te créer d'abord ce site, l'optimisme.com, et puis ensuite être auteur, etc., etc. Et donc, du coup, on voit une nette évolution entre les questions écologiques et la question de la recherche de sens, de la recherche de bonheur. Et moi, ce parcours-là, il m'intéresse tout particulièrement parce que à l'heure où on parle beaucoup des solutions techniques, tu vois, pour réduire notre empreinte écologique et tenir sous la barre des 2 degrés, on parle encore, à mon sens, assez peu de la place du bonheur dans nos vies. Ouais. On essaye de sauvegarder nos sociétés, mais on se pose même pas la question de pourquoi on le ferait. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ton expérience, elle illustre cette nécessité de remettre la question du bonheur au centre de nos vies et de nos débats, en fait?
Alors, je vais revenir un peu en arrière. Effectivement, moi, d'abord, j'ai étudié la physique chimie. Mauvaise voie, tu sais, cette voie de... On te dit de faire des sciences parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai pas trop contrarié mon écosystème autour de moi. Et donc, je suis partie dans cette voie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, je voudrais travailler dans le développement durable. C'était avant le premier Grenelle de l'environnement, tu vois. J'ai commencé mes études dans le sujet en 2005. Et là, tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet, ça empêche les boîtes d'avancer, les entreprises d'avancer. C'était l'écho qu'on me disait à l'époque. Et pour moi, j'avais pas de tendance écologiste, tu vois. C'était du pur bon sens. Je me disais, mais c'est curieux parce qu'il faut qu'on prenne l'entreprise, en fait, dans sa globalité, donc dans son environnement, mais aussi dans son économie, avec ceux qui travaillent dedans. Tu vois, c'était une approche très... Alors, on parle un peu d'holistique aujourd'hui, mais très systémique d'un sujet. Et ça me paraissait d'une évidence flagrante. Donc, j'ai commencé à bosser à l'ADEME et ensuite, j'ai créé un des premiers réseaux des directeurs du développement durable, qui s'appelait Agrion à l'époque, et c'était passionnant. Je rencontrais des gens absolument passionnants, mais je comprenais que c'était pas un sujet, en l'occurrence. C'était un micro-sujet pour quelques personnes engagées, probablement qui avaient un ou deux coups d'avance. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est pas... Le pur bon sens me disait, mais ça devrait être du pur bon sens pour tout le monde, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à explorer. Il y a entre le développement durable et l'optimisme, il y a eu une deuxième étape qui était l'étape du marketing. Donc, j'ai travaillé dans le plus grand réseau du marketing et de la communication pour comprendre, en fait, comment on détournait chaque citoyen de ses besoins. Parce que pour moi, avoir du verre, de la verdure, tu vois, c'était un besoin primaire. Pouvoir manger des produits sains, ça devenait un besoin primaire. Et j'ai voulu comprendre, en fait, comment on manipulait un peu massivement les gens. Voilà, pour la faire courte. Et c'est là que j'ai travaillé dans tout ce qui est data aussi, dans tout ce qui est technique de communication. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, il y avait une sorte d'antinomisme entre sauver la planète, cette injonction un peu sauver l'environnement, consommer moins, qu'on voit passer assez souvent, et consommer. La France va bien, la France est optimiste quand les gens consomment. Tu vois, et je me disais, mais on tient les gens dans une sorte de schizophrénie, parce qu'en plus, avec un peu de data, tu peux pousser n'importe quel produit dont personne n'a besoin à tout le monde, en fait. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête, et parce que ça, soit je devenais dingue, soit j'abandonnais et j'allais faire de la publicité pour une grande marque américaine, en l'occurrence. Et là, je me suis dit qu'en fait, les gens pouvaient changer par une sorte de prise de conscience individuelle qui pouvait s'amplifier, voilà, et qu'il fallait que chacun change et voit que d'autres agissaient pour donner l'envie. Et c'est comme ça que j'ai fondé l'Optimisme, pour mettre en avant les initiatives positives, pour sublimer les actions, et que pour chacun, en fait, ait envie de s'engager en se disant, mais je suis pas le seul à me poser la question.
Je comprends bien ton parcours, et pour moi, si je me retrouve dans effectivement la notion de ne pas créer des besoins inutiles, et de celle de, en fait, vouloir redevenir un peu un proactif dans la recherche de bonheur dans sa vie, il y a en fait un peu le double sens du ça commence par moi. Souvent, on m'a accusé, pour le dire comme ça, de l'individualisme derrière Ça commence par moi, alors que effectivement le changement, si on veut qu'il change d'échelle, doit être collectif. Moi, je crois que l'individu, il est l'étincelle de plein de choses, et je milite activement pour que effectivement on aille vers des mouvements collectifs. Mais c'était aussi le Ça commence par moi, de Ça commence par moi, de préserver le vivant que je suis, et cette première expression du vivant sur laquelle j'ai du contrôle, en fait, c'est nous. Et du coup, l'optimisme, c'est aussi ça. C'est comment on fait en sorte que la première personne, la première chose vivante sur laquelle on a du contrôle, c'est-à-dire nous, elle puisse être sublimée, valorisée à travers la recherche de bonheur, non ?
Mais complètement. Mais on ne nous a pas donné les armes, tu vois, pour avoir confiance en nous, pour écouter nos vrais besoins. Je donne souvent cet exemple. À un moment donné, je m'étais retrouvée, alors, ah bon, je te passe toute l'histoire, mais j'ai vécu à New York, etc., etc., et je me retrouve, tu sais, dans un de ces dîners mondains, de ces soirées mondaines qu'on a à New York, où un peu tout s'en mêle, le perso, le pro. Et moi, je suis quelqu'un de très simple, hein. Il faut savoir aussi que j'ai grandi en Normandie, dans une ferme. Donc, tu vois, j'ai vraiment ce goût de la simplicité qui est très, très fort. Et je me retrouve dans cette soirée. J'y vais en tennis, et au pied des tennis, je mets, tu vois, c'est au talon, et j'ai l'impression de rentrer dans un personnage. Et je me demande, en fait, sur ce toit de ce building, mais est-ce que les autres aussi sont en train de jouer un personnage? Et je me demande vraiment littéralement ce que je suis en train de faire là, et si cette notion de réussite, où les gens, en plus, il y avait une mauvaise énergie, moi je crois beaucoup aussi aux énergies, et je me disais, mais c'est quoi cette blague, en fait? Et c'est probablement pour ça que j'ai fait marche arrière, en essayant de me désancrer toutes ces normes auxquelles on essaie de répondre. D'abord, tu cherches le bon point de ton prof, tu vois, tu cherches le bon point de tes parents, de ton entourage, de tes potes, etc. Et quand tu lèves la main en disant « Non, mais je crois que ça n'a pas de sens, là, ce qu'on est en train de faire collectivement », bah, ça commence par toi, parce que le fait que toi, t'oses le dire, bah, tout d'un coup, ça n'a rien d'individualiste, parce que tu essaimes aussi sur les autres. Enfin, moi, ça fait 5 ans que j'ai l'optimisme, je crois, plus ou moins. J'ai fait démissionner, mais je ne sais pas combien de potes autour de moi qui, au démarrage, ne comprenaient pas ce que je faisais et ce que je leur racontais, d'ailleurs, hein, littéralement. Et c'est pour ça que l'optimisme, c'est une sorte de responsabilité aussi. Quand t'es optimiste, t'as la responsabilité de tes choix, en fait. Quand t'es pessimiste, tu peux te dire, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand t'es optimiste, ben, le choix, tu l'as, comme tu dis, et ça demande de revenir à ton empreinte, tu vois, à te dévêtir de toutes ces couches qu'on t'a, voilà, où on t'a dit ce que c'était la réussite, ce qu'on t'a dit ce qu'il fallait consommer, où on t'a dit que c'était ça la norme. Mais une norme, on peut changer le centre de gravité des normes, en fait. Tu vois, et moi, j'ai l'intime conviction que plus on va être nombreux, en fait, à lever la main en s'exprimant, en osant s'exprimer, plus on va déplacer le centre de gravité de la norme.
Et donc, oser désapprendre aussi. Hein. J'entends qu'il faut oser faire le vide pour le remplir autrement en décidant nous-mêmes.
Complètement, et s'affranchir du regard des autres aussi, c'est compliqué. Moi, avec l'optimisme, les gens me disaient exactement ce que tu évoquais tout à l'heure, mais c'est naïf, l'optimisme. Et je leur disais, mais enfin, je peux choisir entre la collapso ou l'optimisme aujourd'hui. Très clairement, comme je n'avais plus aucune... J'avais vraiment plus aucune confiance dans les systèmes. Tu vois, je me disais, même si des entreprises essayaient de faire bien, faire mieux, c'était pas le système qui essayait de faire mieux, c'était des individus, tu vois, qui essayaient de pousser des actions, quel que soit leur périmètre, hein, que ce soit dans le périmètre d'une vie personnelle, d'une vie professionnelle, d'une entreprise, d'une asso, d'un territoire, peu importe, c'était des gens qui s'étaient un peu révolutionnés déjà à l'intérieur, et c'est probablement là que j'ai compris exactement ce que tu évoques à très juste titre, ça commence par soi, en fait. Ça commence par soi, parce que si tu n'es pas toi-même pas convaincu que demain, tout le monde y participe, que demain, on peut avoir une prise sur demain aussi, tu ne vas pas essayer d'agir. Et c'est vrai que notre entreprise est très... Enfin, le système de nos entreprises traditionnelles sont très annihilants. Tu vois, on dépossède les gens de leurs propres talents, de leurs propres capacités, parce qu'on sort d'une ère post-tayloriste où il fallait plus ou moins de la manœuvre, tu vois, des robots, et que chacun soit unique. Bah, c'est un danger pour une entreprise, parce qu'il faut que l'unique soit remplaçable. Tu vois, il faut qu'on puisse changer les gens, sinon tu mets en danger ton système global. Et du coup, les gens ont été probablement dépossédés de leurs propres talents. Et c'est pour ça qu'à 50 ans, tu vois des gens qui arrivent en disant « Moi, j'étais mauvaise élève à l'école, je ne suis pas très douée dans la vie. » Tu te dis « Mais comment c'est possible? Tu es merveilleux, en fait. » Et c'est une fois qu'on se rend compte qu'on est chacun unique et merveilleux et imparfait, voilà, tout va bien. Tu te dis, bon, bah, dans toute cette imperfection, je vais chercher un peu de merveille et on va essayer d'avancer comme ça.
Nous, ça tombe bien, hein, Catherine, les Français, on est bien imparfaits, et il y a un paradoxe que j'aimerais te suggérer et auquel en tout cas j'aimerais avoir ton avis, parce que quand je suis rentré en 2016 en France, je tombe sur cette étude qui à l'époque disait, il y en a plein des études comme ça et on les croit jusqu'à quel point je ne sais pas, mais qui quand même disait qu'on avait posé la même question à tous les peuples du monde entier et les Français, cocorico, étaient les champions du monde du pessimisme puisqu'ils pensaient à 86% que l'avenir de leurs enfants allait être pire que le leur. Il n'y avait personne qui avait répondu de manière aussi négative. Et comment tu expliques qu'à la fois on ait cette tendance aussi pessimiste et que un mouvement comme le tien avec le livre, avec ton travail, avec le site internet connaisse autant de succès? C'est une réaction épidermique, c'est une nécessité de se raccrocher quand on sent qu'on se noie, ou c'est beaucoup plus complexe que ça?
À mon avis, il y a plusieurs clés de réponse. La première, c'est qu'à un moment donné, je dis à tout le monde, mais sourire, ça ne grille pas des neurones. Tu vois, en France, on est une sorte de peuple de philosophes. On donne la parole aux sachants et aux philosophes sur des plateaux TV. Quand tu as vécu dans d'autres pays, tu te rends bien compte que dans d'autres pays, tu donnes la parole à l'entrepreneur vachement sympa. Tu vois, tu ne donnes pas la parole forcément à celui homme blanc, masculin, dégarni. Voilà, ce qui est quand même très caractéristique. En France, un peuple de philosophes, c'est quand même très intéressant, tu vois. C'est probablement, on a peut-être un peu plus de culture aussi que d'autres civilisations, et quand tu as peut-être un peu plus de culture, tu te dis que demain est quand même incertain. Aujourd'hui, on le sait, on le sent d'autant plus. Mais c'est peut-être déjà deux grilles de lecture. La troisième, c'est tout simplement le débat sémantique. Cette étude, elle avait été contredite, celle que tu évoques, par un autre en disant, bah, tu vois, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un Anglais va te dire qu'il est heureux, en fait, parce que le mot happy, tu vois, ce simple mot happy, ben, il est, t'es heureux d'aller boire un coup. Comment déjà tu traduis le mot happy en français? Est-ce que, c'est quoi ton bonheur d'aller, d'aller boire un coup? Tu vois, le mot bonheur est très, très fort en France. Qui peut dire qu'il a atteint le bonheur? Donc, tu vois, il y a aussi ce débat sémantique qui est mondial, ouais, par rapport à ce genre d'études, parce que le simple poids des mots, je crois que c'est au Japon, t'as quatre façons de dire le mot bonheur. Enfin, tu vois, en fonction de... En fait, il faut pondérer, moduler tout ça par rapport au poids des mots, en l'occurrence. Et probablement, notre système éducatif laisse quand même une empreinte sur chacun d'entre nous où on ne se sent pas capable de pivoter. En fait, tu vois, cette agilité, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas à co-créer. On ne nous apprend pas à parler en public. On ne nous apprend pas à nous exprimer. On ne nous apprend pas à l'empathie, etc., etc. Et ça fait que, du coup, face à l'incertain, on a très peur et on est un peu immobilisé. Donc, je pense que c'est des clés de lecture de cette étude que tu évoques.
Bon. Et le succès de l'optimisme, alors?
Je crois que quand je suis arrivée sur le sujet... Bah, très vite, on te dit, bah, déjà, t'es jeune. J'étais un peu trop, j'avais la trentaine, donc je restais trop jeune. Mais comme j'avais bossé dans le développement durable et dans le digital, qu'à chaque fois, j'avais créé des gros réseaux, en l'occurrence, de gens entre, j'ouvre des guillemets, hein, mais tu vois, respectables. Voilà. On s'est dit, mes potes se sont dit, elle se fait une crise de la trentaine. Voilà, globalement. Mais les gens qui m'avaient suivi depuis une dizaine d'années se sont dit, bon, on l'a pas écouté les deux premières fois, on va regarder pourquoi elle parle d'optimisme, en fait. Et je crois qu'en arrivant avec cet optimisme d'action, je suis pas arrivée avec une sorte de coach motivationnel en disant 10 trucs pour être heureux. Je suis arrivée en disant, mais regardez, il y a des gens qui arrivent à atteindre un certain niveau de bonheur en agissant, et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc, c'est peut-être là, en fait, que l'optimisme a fonctionné. C'est tout simplement aussi, disons, dernier point, c'est qu'il y a une sorte de tabou en France de tout ce qui est peut-être un peu développement personnel. On paraît pas... Enfin, on se dit que c'est pour ceux qui sont... ces sortes de clichés de gens un peu faibles, etc. Alors que tout ce qui est réflexion que tu mènes, hein, sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que le sens, etc., c'est... une réflexion intérieure qui n'est pas futile, tu vois, qui est plutôt intello d'ailleurs, en l'occurrence, et on n'ose pas forcément la dire, de peur de paraître faible, de peur de paraître vulnérable. Et du coup, les questionnements restaient très intérieurs mais existaient déjà. Et l'optimisme, en fait, les a emprunts en disant, moi j'ai levé la main, en disant, mais moi je me pose des questions. Et du coup, ça fait que plein de gens ont levé la main progressivement, c'était déjà là, en l'occurrence.
Merci Catherine pour cette première partie. Toute ton expérience est passionnante. On va partir ensemble en 2030 glorieuse, et avant ça, tu vas nous ouvrir une bulle. Je suis persuadé qu'en fait, on a tout un tas de bulles qui nous mènent vers des mondes d'utopie réaliste autour de nous, et notamment à travers la littérature. Et toi, tu as trouvé un roman qui propose justement une vision de demain que tu voulais nous partager.
Alors, quand on m'a demandé de choisir un extrait de livre, j'ai hésité, je suis une grande lectrice, et j'ai choisi Le prophète de Khalil Gibran, qui est un des livres les plus lus au monde. Donc, ça donnera. Je l'ai découvert seulement récemment, donc on est peut-être nombreux à être passés à côté. Donc, je vais vous lire un court extrait qui parle de l'enseignement. Dit, parle-nous de l'enseignement. Et il dit, personne ne peut vous apprendre quelque chose qui ne repose déjà dans un demi-sommeil, dans les prémices de votre savoir. Le maître, qui déambule à l'ombre du temple parmi ses disciples, ne leur transmet pas sa sagesse, mais plutôt sa foi et son amour. Si c'est un véritable sage, il n'exigera pas de vous que vous entriez dans la maison de sa sagesse, mais vous guidera plutôt jusqu'au seuil de votre propre esprit. L'astronome peut vous parler de sa compréhension de l'espace, mais il ne peut vous donner cette compréhension. Le musicien peut vous jouer le rythme qui occupe tout espace, mais il ne peut vous donner l'oreille qui le saisit, ni la voix qui y fait écho. Si celui qui est versé dans la science des nombres peut parler des régions, des poids et des mesures, il ne peut vous y emmener, car les visions des uns ne sauraient prêter leurs ailes aux autres. Et puisque chacun de vous se tient seul dans la connaissance, chacun de vous doit également être seul dans sa connaissance et dans sa compréhension de la Terre. Et un jeune dit, parle-nous de l'amitié. L'amitié est celui qui répond à vos besoins. Il est le champ que vous semez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Il est votre table et votre feu de cheminée. Car vous venez à lui affamé et allez le trouver lorsque vous cherchez la paix. Quand un ami dit ce qu'il pense, vous ne craignez pas le non qui vous traverse l'esprit, pas plus que vous ne retenez le oui. Et quand il se tait, votre cœur continue d'écouter le sien.
Merci Catherine pour cette lecture. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous la partager ?
Écoute, j'avais hésité, mais comme l'alchimiste avait déjà été mentionné, c'est le deuxième livre qui m'a bouleversée en fait. Je l'ai lu cet été, quelqu'un me l'a mis dans les mains et je lis beaucoup de voilà. Globalement, je lis beaucoup et je me suis dit oh là là, c'est un tel condensé. C'est un court livre qui doit faire 121 pages, qui vaut 2 euros. Et c'est un condensé de questionnements qu'on a suite à la lecture du livre.
Merci en tout cas pour cette découverte que moi non plus je ne connaissais pas, je te l'avoue. En tout cas, le temps que tu lises tout ça, je ne sais pas si tu l'as senti, mais ta chaise a bougé et on est déjà parti ensemble. Ça y est, on y est en 2030 glorieuse. C'est toujours un exercice un peu difficile. Hein. On est dans des futurs souhaitables pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. On va laisser libre cours à notre imagination, alors qu'en général, les Français, ce n'est pas un exercice auquel ils sont très habitués, dans lequel ils sont à l'aise. C'est pour ça que moi je crois que je suis persuadé même que ce podcast est tellement nécessaire. Il faut qu'on s'entraîne à faire jouer au maximum notre imagination et être capable de se projeter dans un monde où nous aurions tout d'un coup réussi à inverser la tendance catastrophique qui s'annonçait, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2020. À l'époque, hein, il y avait tous les voyants qui étaient au rouge. Et ma première question, toi qui es en 2030 glorieuse, c'est si tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois quand tu les rouvres ?
Un monde plus beau, un monde plus humaniste et une révolution, une troisième, quatrième révolution qui s'est passée entre les deux, qui est la révolution des consciences.
Qu'est-ce que c'est la révolution des consciences ?
Un retour à la simplicité, un retour à l'intériorité, un retour à un équilibre, un juste équilibre entre la nature, entre chacun, une juste place pour chacun, une remise en question qui a eu lieu depuis avant, en l'occurrence, de tout ce qui était hiérarchisation des talents, des savoirs, des besoins. Un retour à un écosystème vivant et probablement ce que je vois, ça serait une terre qui respire, un pouls qu'on sent. Pendant des années, on n'a pas senti le pouls de la terre. On n'a pas senti un pouls de l'humanité. Et là, maintenant, on le voit.
Il y a pas mal de personnes qui comparaient les années 2020 à cette période un peu chaotique d'un être humain qui serait l'adolescence où on a besoin de repousser les limites, et quitte à faire des erreurs. Que 2030 glorieuse est aujourd'hui la période de l'âge adulte. Est-ce que tu te retrouves un peu dans cette métaphore ?
Oui, dans une sorte de mue. Dans une sorte de on était trop à l'étroit en fait. Je me retrouve dans cette notion aussi d'un temps qui est différent, surtout. Je crois que c'est on a grandi, on a compris que le temps n'était plus le même. On avait vécu pressé, mais pressé pourquoi en fait? Pressé de cocher des cases, pressé de d'arriver le plus vite possible à atteindre quelque chose, mais on n'avait pas compris que le temps pouvait se dilater comme il pouvait se rétrécir et qu'une minute pouvait être infinie comme elle pouvait être microscopique. Et effectivement, quand on est adulte, comme tu évoques enfance, adolescence et âge adulte, maintenant, on connaît la valeur du temps.
Il y a 10 ans, pourtant, on savait que notre système thermo-industriel, il n'était pas soutenable et qu'il mettait en péril l'équilibre même de notre système Terre. Et à la fois, on avait énormément de mal à lâcher cette branche, à lâcher ce mode de vie qui exploitait non seulement les ressources, la nature, les écosystèmes, la faune, la flore, mais aussi les êtres humains. Je ne sais pas si tu te souviens de tous ces anglicismes, les burn-out, les bore-out, les blown-out. Enfin, il y avait vraiment toutes ces manières d'être exploitées et à la fois, on s'arc-boutait sur ce système. Qu'est-ce qui a été notre déclic, là, maintenant, en regardant avec un peu de recul, qui nous a permis d'oser lâcher pour un nouveau mode de vie, se rendre compte que, en fait, ce changement était une opportunité?
Je pense que les gens se sont rendus compte que c'était une sorte de vaste blague. Il y avait un tabou, en fait. On n'osait pas le dire, on n'osait pas s'interroger sur tous ces systèmes. C'était ça, alors c'était la norme. Et puis, il y a eu un effet peut-être domino. Faudrait regarder s'il a été exponentiel ou plutôt domino. Faudrait l'analyser. Mais d'abord, ça a été une personne qui a levé la main, puis 10, puis 20, puis 30, dans différentes branches, en fait, que ce soit des gens qui ont pris conscience à l'intérieur de leurs entreprises, à l'intérieur de leur territoire, à l'intérieur de leur vie personnelle, à l'intérieur de leur famille, qui ont osé s'exprimer et qui ont osé probablement exprimer leur intériorité. Et tout est énergie. Moi, j'ai fait de la physique chimie pendant des années. Et tout est une notion d'équilibre, en fait, les uns avec les autres. Donc, plus certains se sont exprimés, plus ça a fait basculer de proche en proche vers un mode de vie peut-être un peu plus lent, plus sain et plus systémique, les uns en relation étroite les uns avec les autres. On a compris que la vie n'était pas cloisonnée, en fait, qu'on était tous interdépendants.
Tu parles souvent de normes. Et des normes, effectivement, ça peut nous aliéner, mais ça se défait aussi, et puis ça se refait. Quelles sont les normes de 2030 glorieuse ?
Elles sont les mêmes, en fait. C'est juste qu'elles sont réellement appliquées. Rappelons qu'on est censé être dans une patrie de fraternité, d'égalité, d'humanité. C'est juste, j'évoquais la Terre, c'est qu'on a compris que la Terre faisait partie de cette liberté, fraternité, égalité. En fait, toutes ces normes où tout d'un coup on rejetait des zoos, on avait fait tout un tas de process, etc. On s'est rendu compte en fait qu'on s'était amusé à tout processiser et jusqu'à 2020, tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on était dans une ère incertaine et que finalement la Terre pouvait elle-même nous éjecter. Tu vois, et là on a compris qu'on travaillait en harmonie l'un avec l'autre et on a compris que c'était pas un organisme qui était interdépendant de nous, en fait, qu'on en faisait partie et qu'on était un vivant.
Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le travail d'arriver à mesurer plus finement des marqueurs de société qui permettent de valider les questions de bonheur, d'optimisme, de bien vivre. Là où, à l'époque, tu te souviens peut-être, 10 ans en arrière, on parlait de PIB pour mesurer la croissance d'un pays, et donc, du coup, de taux de chômage pour mesurer le succès d'un président. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les marqueurs de la société ont changé ? À quoi ils ressemblent ?
Qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé, peut-être ? C'est qu'à un moment donné, ce qui était vu comme l'élite n'a plus été vu comme l'élite. Ça a commencé d'ailleurs en 2018, hein, plus ou moins. Tu regardes dans les médias, on commençait à parler de ces mecs qui quittaient les grandes banques pour aller devenir boulanger, alors qu'on n'avait jamais valorisé le boulanger, alors que le boulanger nous nourrit. On commençait à voir qu'une nouvelle, entre guillemets, élite se dessinait et que ben, finalement, c'était, même si on jouait sur l'ego, c'était peut-être un peu plus noble de commencer à s'intéresser à des sujets tels que le développement durable ou tels que une alimentation saine. Donc, il y a eu déjà ce mécanisme qui était très sociétal de qu'est-ce qui était un peu l'élite de demain. Autre chose, c'est à ce moment-là où on a commencé à se rendre compte aussi, tu vois, dans ces années post-2020, qu'on blâmait la société, mais qu'on était la société. Tu vois, on blâme la société, mais nous sommes la société. Et que les citoyens ont un peu repris chacun de souveraineté, en fait, en disant, mais je peux déplacer quelque chose, je peux moi aussi agir à mon échelle. Et évidemment, avec l'influx des réseaux sociaux, on a commencé à oser collectivement lever la main et les gens ont commencé à se rendre compte tout simplement qu'ils étaient malheureux. Et ils ont commencé à oser le dire. Et quand on a vu les premiers quitter des jobs, tu évoquais tout à l'heure tous ces anglicismes, ces bullshit jobs, etc. Ben, on s'est dit, attends, ça suffit plus que de gagner du pognon. Comment ça? Il faut faire autre chose maintenant. Et donc, c'est là qu'on a réfléchi à ces autres choses, pour des bonnes raisons ou pas. Mais ben, on est arrivé effectivement à du bonheur brut, etc., etc. Un produit tout aussi peut-être impalpable que de la finance. Et puis, on s'est aussi rendu compte que des flux financiers ne rendaient jamais personne heureux.
Et toi, Catherine, en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu fais?
Je rencontre des gens. Je continue à m'émerveiller des autres et du vivant. Et je crois que le plus grand défi qu'aura eu ma vie jusque-là, ça a été de ne pas perdre mon optimisme.
Comment tu as réussi à ne pas le perdre, cet optimisme ?
Grâce aux autres. Grâce à des actions comme celles que tu as menées et comme celles que des centaines de milliers de citoyens mènent chaque jour, chacun à leur échelle, sans qu'on en parle. En fait, j'ai réussi à continuer à avoir tous ces questionnements et à me dire, c'est bon, je ne suis pas toute seule. On n'est pas tout seul, en fait. Et c'est cette notion de groupe, en fait, qui donne la solidité que d'aller bâtir une société un peu différente. Et plus on est nombreux à lever la main, plus ça a questionné les autres, en fait. Et de proche en proche, j'ai rencontré sur ces 10 dernières années des gens qui se sont engagés pour une agriculture plus saine, pour un retour au local, pour un retour à beaucoup plus d'humanité, à beaucoup plus d'interactions réelles, sociales, en fait. Parce que c'était ça aussi dans lequel on s'était perdu. On était dans... tu te rappelles de tout ce qu'il y avait eu, du Covid, etc. Mais c'était un vide, tout court, en fait. On était tous vides, en fait. Covid, mais en deux mots. Et on s'était perdu, hein, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans des prismes, on s'était perdu dans le miroir de nous-mêmes. On était dans une culture du selfie, on était dans une culture de la « vous êtes le maillon faible, sortez ». Tu te rappelles de ces jeux télévisuels, en fait, qu'on avait sans cesse de « vous échouez, vous dégagez ». On avait oublié, en fait, qu'il allait falloir survivre et qu'il allait falloir créer ensemble et qu'on avait eu besoin des talents de chacun. Et c'est probablement ça qu'on a eu dans les 10 ans qui ont suivi et qui, moi, donnait toujours plus d'optimisme en me disant c'est bon, de proche en proche, chacun est en train d'agir à son échelle.
Dans ce que j'entends, l'optimisme, en fait, il est non seulement contagieux, mais il va nécessairement se chercher chez l'autre. Un optimisme individuel et individualisant, ça ne fonctionne pas.
Alors, on est peut-être différents. C'est qu'effectivement, en ayant travaillé dans des sujets tellement... du développement durable, j'ai une telle conscience des risques, en fait, que je me sais toute seule, je ne changerai pas l'humanité à moi toute seule. Tu vois, j'ai peut-être un peu d'humilité. Et je crois que, si on a un peu de réalisme, on sait qu'on ne changera pas les choses tout seul. Voilà. Et que du coup, on est tellement plus puissant à plusieurs, en fait. On est tellement plus puissant quand on se fédère. Et c'est ça qui a montré, face aux défis qu'on a eu à traverser sur les 10 dernières années, on s'est montré fort, on s'est montré unis, on s'est montré solide, on a montré que face à des dangers, on arrivait à construire quelque chose un peu plus beau. Et c'est cette notion de collectif qui, moi, m'a toujours habité, mais le collectif, c'est une somme d'individus.
J'imagine qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, notamment depuis que toi, tu t'étais lancé sur ces questions d'optimisme, de liens profonds vivants, tu avais vu des expérimentations par-ci, par-là, qui étaient enthousiasmantes parce qu'elles permettaient aux gens d'être proactifs dans leur recherche de l'optimisme, que ce soit à l'école, au travail, dans leur famille. Qu'est-ce qui a réussi à changer d'échelle et à se normaliser? Comment la quête d'optimisme est devenue une quête proactive et nationale?
Par l'éducation. En fait, je crois qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte, tu te rappelles, que on allait avoir besoin de co-construire et que notre système éducatif n'apprenait pas l'empathie, n'apprenait pas l'écoute, n'apprenait pas le partage, n'apprenait pas la solidarité. On était dans, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a grandi, on nous notait, on nous classait, il fallait chercher la meilleure note, il ne fallait pas chercher le talent, il fallait chercher la meilleure note. Et à partir du moment où on a fait basculer notre éducation, enfin, notre système éducatif, nos enfants, en fait, ont fait basculer les plus âgés, et de proche en proche, on a eu un goût de l'humilité, en fait. C'est ce qui nous manquait. Jusqu'à à peu près 2021, on avait perdu ce goût de l'humilité en se disant, mais personne ne peut avoir la réponse. On a compris qu'on passait d'un process à l'incertitude. Et ça a été probablement le point de bascule, notre système éducatif se soit transformé, parce que, quand les gamins, on leur a mis un peu d'empathie dans les pattes, ils ont eu de l'empathie avec un système vivant qui est la Terre, tout simplement. Et que quand tu as conscience de la beauté des choses aussi, tu ne vas pas les détruire. Quand tu as conscience de la beauté de l'autre, quand tu n'as plus peur de l'autre, tu ne vas pas le détruire par un management horrible. C'était ça qu'on avait avant. Enfin, aujourd'hui, ça paraît une totale ineptie que d'avoir des entreprises où on fait une sorte de course à la productivité. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, avant, on voulait créer du travail pour créer de l'emploi. Tu sais, on avait oublié qu'en fait, créer du travail, c'était pour œuvrer, c'était pour participer à sa société. Tu vois, c'était pas la même chose. On partait dans des quêtes, il fallait créer de l'emploi, mais c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de participer à la société. Et tout le monde est utile à la société. C'est ça qu'on avait oublié. On était passé à côté de la beauté de l'individu, de l'utilité de chacun. Et on avait oublié de sublimer. Je crois que je l'ai évoqué plein de fois déjà, ce mot. On avait oublié de sublimer chacun.
Ça laisse rêveur et c'est un cap magnifique que tu nous as permis de toucher du doigt, Catherine. La route, avant 2030 Glorious, elle est à la fois très très longue et à la fois très courte. 10 ans, c'est demain et c'est dans très longtemps. C'est un exercice pas évident qu'on a tenté de faire ensemble. Et toutes les personnes qui nous ont écoutées, elles vont être très vite rattrapées dans leur quotidien, par leur quotidien, même si à un moment ou un autre, il y a quelque chose qui les a touchées dans notre échange. Alors moi, du coup, j'aimerais que tu leur tendes une dernière perche, celle du premier pas que tu leur suggérerais pour que, elles puissent marcher vers cette utopie réaliste qu'on a dessinée ensemble. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, de mettre en place dès demain?
Osez le dire. Osez le dire à quelqu'un. Osez t'envoyer un mail ou m'envoyer un mail pour qu'on dise « t'en fais pas, moi aussi, à un moment donné, je pensais être le seul à délirer et que personne ne me comprenait ». Parce que souvent, on est dans une quête de... on est seul, en fait. Quand notre entourage n'a pas changé, quand notre entourage ne s'est pas interrogé, quand on est dans des cases encore, on a dans des cases trop étroites qui nous correspondent pas. C'est un peu comme une mue. Tu parlais tout à l'heure d'une mue, tu vois. Faut changer la carapace de l'escargot. Il faut enlever pour passer sur une autre coquille. Donc, on est complètement à nu. Tu sais, quand tu changes de carapace, tu es complètement à nu. Et tu te dis, mais qui c'est qui va m'aider là-dedans? Et vraiment, dans mon parcours, moi, ça a été d'autres gens où je me suis dit, un jour, j'ai rencontré des gens. On partageait, moi je sortais d'un truc scientifique, personne ne comprenait ce que je racontais. Tout d'un coup, des gens ont compris et m'ont dit, mais ça va aller? Ça va aller? Enfin, ça va aller. Et ça m'a suffi à me dire, je ne suis pas la seule et je vais faire ce premier pas qui est d'aller dire, d'aller en parler autour de soi. C'est probablement un des pas fondamentaux parce qu'on se rendra compte qu'on n'est pas les seuls.
Merci Catherine. Et voilà, l'interview avec Catherine vient de se terminer. Vous avez sans doute senti comme moi cette énergie absolument bouillonnante. Et écouter Catherine comme ça pendant 45 minutes, ce qui est sûr, c'est que ça laisse pas indifférent. Ça pétille, ça bouge, ça part dans tous les sens. Et surtout, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est à quel point on peut être proactif dans la recherche du sublime dans nos vies. Et ça, ça fait du bien de sentir qu'on peut être acteur et que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Catherine nous parlait de ralentir, Catherine nous parlait de regarder les choses différemment. En fait, finalement, c'est souvent ce qui est le plus simple, qui est le plus compliqué à mettre en place dans notre quotidien. Et elle nous a donné de nombreux exemples qui vont dans ce sens. Et puis aussi, ce que nous a dit Catherine, c'est que l'autre est une richesse et elle, dans tout son parcours, en fait, elle voit l'autre, les personnes qui l'entourent, mais aussi les personnes qu'elle ne connaît pas encore, comme des trésors qui vont lui permettre de découvrir de nouveaux sujets, d'affiner certaines idées qu'elle avait déjà, et surtout de se sentir encore plus vivante, de se compléter, de se complexifier. Hein, Catherine qui part d'un sujet qui, en plus, en France, est vécu comme quelque chose de très naïf, de très simpliste, nous a montré pendant 45 minutes qu'au contraire, l'optimisme, c'est pas du tout une question naïve et simpliste, c'est une question qui mérite de la nuance, de la complexité, et qui, si, comme tous les outils de l'humanité, est bien utilisé, a un pouvoir extraordinaire. J'espère que vous en garderez quelque chose et que ça va impacter vos vies, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !